l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Michel Tanan, bonjour. Vous faites partie d'un collectif, le collectif SOS Forêt, qui s'occupe de protéger la forêt. Et vous avez assisté il y a quelques jours aux Assises de la Forêt, un regroupement national de gens qui, comme vous, protègent la forêt. Alors, comment vous est venue cette envie de protéger la forêt ?
Et ben moi, ça a commencé par ma carrière, puisque j'ai travaillé à l'Office national des forêts de 1979 à 2015. Là, je suis retraité maintenant, depuis 2015. Et j'ai fait un petit peu de chèvre et travaillé dans les vignes, dans le Var, et j'ai pu découvrir les forêts des morts et puis rencontrer un forestier de l'ONF qui m'a fait comprendre qu'il y avait des possibilités d'entrer par concours. J'avais le niveau, donc voilà, j'ai passé le concours externe, hein, qui était un des derniers concours d'entrée à l'ONF qui était ouvert à tout le monde.
Parce que rappelons-le, donc, l'Office national des forêts, c'est un établissement public qui gère les forêts domaniales, donc les forêts de l'État. C'est donc un objectif qui peut s'entendre par, justement, bien gérer la forêt comme un bon père de famille qui protège ses enfants, ou alors voir la forêt, et c'est ça qui a évolué, plus d'un point de vue productiviste pour extraire un maximum de bois. Alors vous parlez de collecte. Non, de récolte.
Ah, de récolte, bien sûr, oui.
Donc on pourrait imaginer de la part d'un établissement public plus une gestion de la forêt comme un bien commun. Mais c'est ça qui a changé avec la nouvelle forme industrielle et commerciale de cet établissement qui a conduit à rechercher une rentabilité.
Alors on parle toujours, pas que dans les forêts gérées par l'ONF, hein, c'est devenu un terme plus général, on parle de multifonctionnalité de la forêt. Et à l'ONF, moi j'ai toujours appris ça, il y a trois fonctions. La fonction de production, donc le bois qui est coupé et commercialisé. La fonction écologique ou fonction de protection. Et la fonction sociale, alors c'est surtout l'accueil du public. Et voilà, c'est très difficile d'arriver à remplir ces trois missions. Il y a eu une dérive, en effet, où c'est la fonction de production qui a eu tendance à effacer les deux autres. Et surtout à cause du on parle de modèle économique de l'ONF, donc je vais remplir ce terme-là. Au début, donc les pics ONF a été bâti en se disant le bois va se développer, les rentrées financières par rapport aux ventes de bois vont représenter une grosse masse et ça va permettre à l'ONF d'avoir son autonomie, son propre budget. Alors ça a marché quelque temps. Et puis petit à petit, le marché du bois, c'est une matière première, donc il suit des cours, hein, comme les d'autres matières premières, a baissé, avec donc des premières volontés de la direction de l'ONF et de l'État de compenser la baisse du cours du bois par une augmentation de la récolte, ce qui quelque part est un peu idiot, hein, bon, reconnaissons-le. Et puis voilà une évolution qui a fait que le modèle économique de l'ONF est remis en cause, nettement. Il y a eu un rapport interministériel là, il n'y a pas longtemps qui va proposer une réforme de l'ONF, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais qui est basé sur le fait que l'ONF est forcément en déficit. Même si la proportion dans le budget de l'ONF de la vente des bois a quand même pas mal baissé, ça continue à être les rentrées d'argent essentielles et il y a un problème, l'ONF qui a un déficit structurel tous les ans, qui est obligé de s'endetter, on parle de 400 millions de dettes. Je précise quand même, parce que dans les discussions, on entend beaucoup dire que le déficit de l'ONF c'est 400 millions, en fait c'est un endettement. Et son véritable déficit, il varie un peu tous les ans et bon... Il y a quelques années en arrière, le budget de l'ONF était à égalité. Alors l'ONF, c'est un EPIC, un établissement public, donc il n'a pas de bénéfices à faire. Quand il fait des bénéfices, il les reverse à l'État, puisque l'État laisse ses forêts à l'établissement ONF. Et En échange de quoi, les recettes de bois reviennent entièrement à l'établissement ONF. À part, évidemment, les taxes, la TVA, tout ça, et puis le reversement. Alors, il y a un autre élément aussi qui est important dans le modèle économique de l'ONF, c'est que, donc, il y a quand même toutes ces forêts communales qui représentent un gros morceau. L'ONF assure la gestion de ces forêts communales, on va dire gratuitement. Et l'État s'est engagé depuis plusieurs années à verser, on appelle ça le versement compensateur, c'est-à-dire l'État s'est engagé à compenser les différences de coûts de mise en œuvre de la gestion des forêts communales. Et les seules rentrées de l'établissement en face de ça, c'est des pourcentages par rapport aux ventes de bois que l'ONF fait pour les communes. Et puis, il y a aussi donc, une taxe à l'hectare qui a été mise en œuvre depuis quelques années. Mais ça ne suffit pas à compenser le coût des personnels. C'est ça le gros problème aussi au niveau de l'ONF, c'est le coût des personnels.
Alors, il y a tous ces coûts, on l'entend bien. Il y a un patrimoine pour des raisons écologiques évidentes, doit être préservé. Mais c'est relativement abstrait. Et si on prenait vraiment en considération tous les avantages environnementaux, si on intégrait ces avantages environnementaux d'un point de vue économique, la biodiversité, la captation du CO2 par les sols des forêts et par les arbres, bien sûr, en capturant ce carbone dans le bois, les calculs seraient peut-être complètement, complètement différents. Et il y a aussi des évaluations économiques sur le bienfait des forêts pour les gens qui vivent à proximité, qui vont s'y promener, les cueilleurs de champignons. Il y a aussi tout plein de petites économies d'artisans qui peuvent y travailler. Donc tout ça, c'est un avantage économique.
Oui, d'ailleurs, il y a, dans les propositions de refonte du modèle économique de l'ONF, il y a aussi cette option-là qui est de faire rémunérer tous les biens, toutes les valeurs qui sont pas commerciales, quoi. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit, on peut y rajouter aussi la qualité de l'eau, la qualité de l'air, enfin, toutes sortes de choses, la richesse en biodiversité, parce que bon, faut pas oublier que les derniers refuges de nature, c'est la forêt, hein, puisque l'agriculture, on voit son évolution avec la disparition. Dans le dernier rapport environnemental fait par le ministère de l'Environnement, qui s'appelle maintenant le ministère de la Transition écologique, on voit des chiffres sur les oiseaux liés au milieu agricole qui sont en chute libre, quoi. Et puis voilà, on sait ce qui se passe dans l'agriculture, l'évolution qu'il y a eu dans l'agriculture, son industrialisation, sa financiarisation. Et justement, un début de SOS Forêt, c'est ça, c'est d'éviter qu'on retombe dans les mêmes travers que ceux qu'a connu l'agriculture. Et justement, peut-être se dire qu'on a cet exemple-là et il ne faudrait pas reproduire la même chose dans les forêts.
Alors justement, donc là, on vient de parler de l'ONF, de la gestion des forêts qui appartiennent soit à l'État, soit aux communes, qui sont très nombreuses. Mais il y a aussi tous ces propriétaires privés qui sont propriétaires de forêts qui ne sont pas forcément dédiés à l'exploitation forestière. Et là-dessus, justement, votre collectif SOS Forêt, via un réseau aussi national qui se réunit régulièrement, le réseau des alternatives forestières, et dans le cadre des assises de la forêt qui viennent de se dérouler ici en région parisienne il y a peu de temps, alerte tous ces petits propriétaires forestiers en disant « Attention, la forêt n'est pas faite uniquement que pour l'exploitation forestière et la production de bois. »
Ce qu'on pense, on en a pas mal discuté au niveau de ces assises, puis on en parle aussi quand on a des réunions SOS Forêt France. La question qu'on se pose, est-ce que les forêts publiques, forêts domaniales et forêts communales vont donner un exemple sur la gestion des forêts en s'écartant de l'industrialisation, ou est-ce qu'au contraire, c'est le modèle des forêts privées qui va déteindre sur les forêts publiques et imposer l'industrialisation des forêts, l'exploitation, la production de bois d'œuvre et de bois énergie aussi. comme priorité.
Vous, vous parlez des objectifs du Grenelle comme quelque chose qui a quand même déclenché un phénomène au niveau national. On a vu passer des pétitions peut-être un peu partout. C'est la forêt du Morvan, par exemple, qui est une forêt magnifique, très très ancienne, qui est mise en péril parce que depuis le Grenelle, depuis 2007, il y a des objectifs de biomasse, donc c'est-à-dire d'énergie renouvelable à partir du bois. Et ça, ça met en péril notre forêt.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2015 qui disait produire plus pour protéger plus. Bon, ça, on en a pas mal discuté aussi. Mais concrètement, c'était un objectif de mobilisation des bois. Alors, quand on parle de mobilisation des bois, c'est de la récolte de bois, les arbres qu'on coupe. C'était de fixer un objectif supplémentaire de 21 millions de mètres cubes. Bon, après, c'est des chiffres. Mais pour recentrer un petit peu la démarche de nos décideurs, là, c'était Sarkozy, à l'époque, qui avait fait un discours remarqué par les forestiers à Urmat, en Alsace ou dans les Vosges, je ne sais plus. Et il disait, la forêt française produit à peu près 100 millions de mètres cubes tous les ans. Hein, les arbres, ils poussent tous les ans avec la photosynthèse, avec l'agrandissement. Et on n'en récolte que 50%. C'est scandaleux. On pourrait, en effet, en récolter la totalité des 100 millions de mètres cubes, quoi. Et après, il y a eu ce Grenelle d'environnement, donc avec les 21 millions de mètres cubes. Alors, il y a eu des discussions sur les chiffres, parce qu'il y avait des mauvais chiffres. Parce que la forêt, ça, c'est dans le code forestier aussi. La forêt domaniale, communale, forêt privée, doit être suivie très précisément. Alors, il y a un établissement qui s'appelait l'Inventaire forestier national, qui est maintenant regroupé avec l'IGN, qui fait des inventaires tous les ans pour suivre l'évolution de la forêt, le capital sur pied, le nombre d'arbres, les accroissements, parce que ça peut varier selon les essences, selon les coins. Et ils s'étaient un petit peu plantés hein, dans leur première orientation. On est revenu là-dessus, mais il y a quand même toujours cette volonté d'augmenter la mobilisation, d'augmenter la récolte de bois en France. Et maintenant, ce qu'il y a eu, c'est il y a 2 ans, le programme national de la forêt et du bois, qui a fixé un objectif de 12 millions de mètres cubes supplémentaires. Je crois que c'est 30% de plus dans les 6 ans qui viennent. Et surtout, charge aux régions de décliner ce programme national de la forêt et du bois, dont on commence à avoir des applications dans plusieurs régions, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, là, ils se sont, boum, ils sont montés vraiment au créneau, les défenseurs de la forêt, parce qu'il y avait une chose qui touchait particulièrement le Morvan, c'était le programme régional de la forêt et du bois qui devait cibler dans toutes les forêts de la région des endroits particuliers où on ferait de la forêt de production. Alors il se trouve que dans le Morvan, après-guerre, il y a eu d'énormes plantations de résineux. On parle de ces fameux Douglas, là, qui sont importés des essences originaires des États-Unis, qui ont été plantés avec des encouragements après la guerre. Hein. Il y avait le Fonds forestier national qui encourageait à ces plantations. Donc ce qu'il y a eu aussi, c'est que les peuplements feuillus, on parle de peuplement, hein, c'est des parties de forêt, enfin, c'est ce qui constitue la forêt. Les forêts feuillues ont disparu, ont été coupées pour mettre du Douglas ou des résineux à la place, qui est beaucoup plus rentable.
Et parce que du coup, tout ce qui est pin, ça peint, ça pousse beaucoup plus vite.
Oui, alors on donne l'exemple aussi de la forêt des Landes, là, qui est pareil, enfin, qui est une forêt qui a été plantée sur les Landes là, sous Napoléon III. Qui est vraiment une forêt de production avec des arbres alignés et avec des recherches aussi génétiques. Ils en sont à la 3e génération de pins maritimes qui pensent pouvoir exploiter à 30 ans. Alors on voit un peu ce que ça va donner comme évolution. Alors c'est déjà le cas, c'est-à-dire... On plante des pins maritimes, ils ont 1 ou 2 ans, ils ont poussé en pépinière. Ils sont plantés alignés, forcément. Je ne parle pas de tout le travail qu'il y a avant, de restructuration du sol, des souchages, s'il y a besoin. 30 ans après, on peut les récolter. Et après, on recommence. Voilà. Alors la forêt du Morvan, ça risquait de prendre la même orientation.
On va dire que ça n'a rien à voir. Là, on parle de monoculture, il n'y a plus de biodiversité en fait dans ces forêts-là. Et en plus, il y a un problème au niveau du carbone du sol.
Alors moi, j'encourage nos auditeurs à aller voir le film Le Temps des Forêts, là, qui est un film qui nous a bien remis sur la sellette, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Les projections ont été suivies de débats avec les auditeurs. Le Temps des Forêts. De François-Xavier Drouet. Alors, il montre... J'ai pensé déjà tout à l'heure, quand je parlais des pins maritimes dans les Landes qui sont alignés, on voit un forestier privé qui dit « Oui, c'est mes petits soldats, moi, je suis bien content. Ils sont tous alignés, je vais tous les couper en même temps. Lui, t'es pas du tout gêné par le manque de biodiversité. » On lui faisait remarquer qu'on n'entendait pas d'oiseaux, qu'il n'y avait rien sous les pins maritimes. Ça ne le gênait pas. Il nous disait « Les oiseaux, ils ont qu'à aller ailleurs. » C'est des monocultures avec des successions de coupes rases et de plantations et des sols qui sont complètement appauvris parce qu'ils sont aussi ils sont labourés. Il n'y a pas d'enrichissement par les branches qui tombent parce que bien souvent, elles peuvent être récoltées en même temps. Il n'y a pas d'humus. Le sol est... On se retrouve dans la situation de l'agriculture avec le besoin d'apporter des engrais. Il y a des engrais qui sont amenés, il y a des phytocides qui sont employés parce que des fois, il y a quand même des essences annexes qui arrivent à s'implanter. Alors, les plantations de Douglas, c'est encore pire que les plantations de bas maritimes parce que c'est noir, c'est beaucoup plus... ça a des houppiers vraiment très... le pas maritime, il laisse passer la lumière, le Douglas, il n'en laisse pas passer, donc au sol, il n'y a plus rien. Des oiseaux, il n'y en a pas. Le temps de replanter, tant que les petits arbres y repoussent, le sol est complètement appauvri. Et donc le chiffre, c'est ça, c'est que dans la totalité du carbone qui est stocké par la forêt, qui se retrouve dans les forêts françaises, dans la forêt, il y a 55, plus de la moitié de ce carbone stocké par la forêt qui est dans le sol. Donc d'où l'importance, comme dans l'agriculture, de ne pas retourner les sols, de ne pas dessoucher. Alors le bois énergie, ça peut... être très bien quand on utilise dans le bois énergie, alors que ce soit le bois bûche, hein, le bois qu'on fait brûler dans nos poêles ou dans nos chaudières, ou encore la plaquette, c'est-à-dire le bois qui est trituré pour alimenter des grosses chaudières collectives. Donc c'est très bien quand on utilise les sous-produits de la forêt, c'est-à-dire on produit du bois d'œuvre, du bois pour faire des meubles, de la charpente, et qu'on utilise pour le bois énergie en bois bûche ou en bois trituration, les branches, les petits arbres, parce qu'il y a aussi des fois des arbres de petit diamètre qu'il faut couper pour qu'ils profitent à ceux qui vont devenir des beaux sujets pour le bois d'œuvre. Voilà, mais il y a une dérive qui fait qu'on envisage, et on fait maintenant de plus en plus, des exploitations où on coupe tout, l'arbre en entier, avec ses branches, il est ramené en bordure de parcelles forestières, et là il est broyé, c'est-à-dire c'est tout l'arbre qui passe en plaquette forestière, le sol se trouve évidemment à nu, il n'y a plus l'apport de l'humus par le bois mort, par les branches. Et il y a même des endroits où ils envisagent, alors c'est des grosses centrales qui se mettent en place, grosses centrales de chauffage collectif ou de production d'électricité comme à Gardanne, ils ont tendance à s'implanter un peu partout, c'est des gros groupes qui sont derrière tout ça. Et on envisage même d'extraire les souches, une fois les arbres coupés, on utilise aussi les souches pour faire du bois de chauffage, enfin du bois d'énergie.
Donc on ne laisse plus rien du tout dans le sol, on appauvrit les sols ne stockent plus de carbone. Et alors Gardanne, c'est un exemple assez intéressant, effectivement on voit fleurir un peu partout des projets assez importants, ça fait partie du mouvement global d'industrialisation de gestion de la forêt, donc à Gardanne, donc ça c'est dans le sud-est,
pas loin de Marseille,
donc dans le sud-est de la France, en 2015, où l'État a aidé une E.ON, donc c'est un géant allemand de l'électricité, a aidé financièrement ce géant de l'électricité à mettre en place une énorme unité de production centrale à bois, biomasse. Et donc là, c'est vraiment, on est dans des process industriels qui consomment une quantité phénoménale de bois et qui mettent en péril finalement toutes nos forêts.
Oui, et même celles de l'étranger, hein, parce qu'on parle de déforestation importée. La centrale de Gardanne, il y a du bois qui vient des États-Unis ou du Brésil, je ne sais plus, peut-être les deux. Hein.
Donc une aberration aussi écologique liée à tous ces transports.
Oui, bien sûr. Alors Gardanne, c'était transformer une centrale à charbon en centrale à bois énergie. Par contre, ce qu'on sait maintenant et ce qu'on voit concrètement, c'est que au niveau rentabilité, c'est pas terrible, quoi. Alors, il y a nos détracteurs qui disent, oui, regardez, SOS Forêt France, les écologistes, ils disent que brûler des arbres pour faire de l'énergie électrique, c'est pas rentable, parce qu'on brûle sur 3 arbres, il n'y en a qu'un qui est vraiment transformé en électricité, quoi. Il y a énormément de pertes, il n'y a pas de rentabilité. Ils disent, bah, oui, voilà, donc ils veulent en effet garder le charbon, le gaz et le pétrole. C'est pas forcément la question, mais c'est sûr que ce système de transformation de bois énergie en électricité, c'est pas du tout intéressant parce que ça, c'est pas rentable, là, il y a beaucoup de pertes. Ça provoque de la pollution, pas uniquement les camions qui amènent le bois. Il y a aussi toute la déjection de poussière, hein, de micro-particules. Alors, un petit exemple. C'est parce que c'est aussi un problème qui se passe aussi au niveau de l'Europe, hein, quand on parle des grands groupes, là, ça se passe au niveau européen. Moi, j'ai noté qu'il y avait une députée européenne qui est très, très écolo, enfin, elle doit être à Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, qui a demandé à ce que le bois soit retiré, enfin, le bois énergie soit retiré des énergies renouvelables dans les programmes européens. Alors, son argumentation, c'est de dire en effet qu'il y a des encouragements pour faire des grosses centrales, qu'il y a de la pollution, que c'est pas rentable. Et puis, il y a aussi, alors ça, je sais pas si elle le dit, mais ça fait partie des éléments, et renouvelable, voilà, oui, mais, je veux dire, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est le temps que la forêt va se reconstituer, quoi. Alors, c'est 30 ans peut-être pour le pin maritime, mais est-ce que c'est une vraie forêt ? Après, si c'est pour une forêt qui est vraiment un rôle au niveau du stockage du carbone, pour qu'elle se renouvelle, il va falloir peut-être une centaine d'années. Hein.
Heureusement, il y a quand même des alternatives. Michel Tannant, à SOS Forêt France, vous êtes en lien avec le réseau des alternatives forestières, qui est basé donc en Ardèche. En Ardèche, c'est
oui,
bien
oui,
ça
oui, ouais. C'est le siège, ouais, ouais.
Qui est basé donc en Ardèche. Il se passe des choses, il y a des expérimentations, il y a des choses qui marchent très bien. Il y a aussi de l'espoir pour se dire, et notamment pour tous ces petits propriétaires de forêts privées, qu'on peut exploiter de façon vraiment durable les forêts en créant des emplois locaux avec différentes alternatives, comme par exemple débarder, donc transporter le bois qui a été coupé en traction animale, où là, on a même des retours d'expérience, comme quoi c'est moins cher sur certains secteurs, surtout les secteurs pentus de montagne, et ça revient beaucoup moins cher, et ça permet de conserver un bon état de biodiversité dans la forêt.
Oui, alors c'est le réseau des alternatives forestières. C'est une association qui, qui représente la plus grosse partie de SOS Forêt France, quoi. Notre objectif, c'est aussi ça, hein, c'est de proposer une gestion des forêts qui soit différente. Alors, les petits propriétaires, moi, je voudrais quand même y revenir, parce que par rapport aux objectifs de mobilisation, d'augmentation de la mobilisation du bois, hein, qui est dans les objectifs gouvernementaux, de récolter 12 millions de mètres cubes en plus, on entend souvent dire, donc par les responsables gouvernementaux, oui, mais ça, c'est pas dans les forêts publiques qui exploitent déjà leurs forêts suffisamment. Ça serait plutôt dans la forêt privée et dans les forêts qui ne sont pas exploitées actuellement. Alors, notamment les petits propriétaires en montagne, notre objectif, c'est aussi de tirer un peu une sonnette d'alarme par rapport à ces petits propriétaires et de leur dire de faire attention aux propositions qui peuvent leur être faites par les grosses coopératives forestières. Et qui vont aller leur proposer, oui, vous exploitez pas votre forêt, pourquoi ? Mais regardez, moi je peux venir, j'envoie des bûcherons, j'envoie une machine à récolter le bois, et puis vous aurez tant de revenus, et il y en a qui peuvent tomber dans le piège. Hein, et ça, c'est pas que nous, SOS Forêt France, qui pouvons être considérés un petit peu comme des écolos. J'ai entendu dire ça par le président du conseil d'administration de l'ONF, là, qui est aussi un forestier. Qui représente des forestiers en Bourgogne et qui disait oui, ça c'est un danger que des gros financiers, des grosses coopératives financières aillent proposer d'exploiter les petites forêts. Alors l'autre danger qui guette, c'est en train de prendre l'ampleur, ça. C'est le débardage par câble. Alors on connaît le débardage par câble dans les montagnes, hein, où il y a des câbles qui descendent. Et là, il y a des systèmes qui sont efficaces, d'ailleurs, qui sont recommandées quand on veut préserver les sols, notamment pour sortir du bois au niveau d'une tourbière ou d'une forêt où on veut pas toucher les sols. C'est le câble-mât, c'est-à-dire qu'il y a un camion qui est en bordure de la parcelle forestière, il y a un grand câble qui est au bout d'un mât avec un système de rotation du mât, et on accroche les grumes. Il y a juste la pointe de la grume qui touche le sol. Donc ça n'a vraiment rien à voir comme impact avec un gros engin de débardage. Donc voilà, on pourrait éventuellement leur proposer ça aussi, en leur faisant miroiter qu'en effet, on ne va pas dégrader le sol. Mais surtout, nous, ce qu'on voudrait dire et faire reconnaître, c'est la possibilité pour les petits propriétaires forestiers, ceux qui ne veulent pas exploiter leur forêt, qui veulent garder leur forêt en état. Alors nous, on parle de forêt en libre évolution. C'est des forêts qu'il faut arriver à garder, à augmenter en surface au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Des forêts qui peuvent servir d'observation, de modèle pour la gestion qu'on va mettre en place. Et Dieu sait s'il y a des menaces, hein, sur les forêts en ce moment. Alors la sécheresse, les parasites, les scolytes. Il faut qu'on laisse, et peut-être le faire reconnaître dans le code forestier, la possibilité pour les propriétaires volontaires de garder leur forêt en libre évolution et de résister aux coopératives forestières qui viennent leur proposer d'exploiter leur forêt.
Merci beaucoup, Michel Tannant. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet. Yeah.
after removed.